à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans 100% foot et je suis avec mon compère et compagnon de fortune et d'infortune, la fortune nous tend les bras, Patrick, bonjour.
Bonjour Franck, voilà, bonjour à toutes et à tous.
Nous allons donc évidemment parler de choses qui nous enchantent. La Ligue 1, c'est une chose. L'Olympique de Marseille, hier soir, nous a été très prolixe. Peut-être pas sur la quantité, nous allons pouvoir en discuter. Parler de cette 14e journée du championnat. Et commençons peut-être par le dernier match qui a eu lieu hier soir. Donc l'Olympique de Marseille qui se déplaçait au stade Geoffroy Guichard face à Saint-Étienne.
Donc on a quand même assisté à un match. Alors ce matin je lisais l'équipe, s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Il y a une remarque qui m'a fait tilter. Ils ont dit, il était écrit, le journaliste a écrit, à Saint-Étienne le seul truc qui est au niveau européen c'est le stade et le public. Et effectivement, c'était une belle ambiance, un stade, un très bon stade, comme d'habitude. Un peu con à la fin, parce qu'ils perdaient, que ça les a énervés, un peu fumigène, ils ont un peu mis le souk.
Oui, apparemment, cela a été accompagné d'une célébration d'anniversaire de groupe de supporters.
Voilà, des Magic Fans, et un des plus principaux groupes stéphanois. Mais bon, disons que ça a mené une interruption de quelques minutes, mais le match a terminé. Il n'y a pas eu d'agressivité envers l'adversaire. Hein. C'était plutôt de la déception devant leur équipe. Mais il n'y a bien que le stade et les supporters qui ont le niveau international. Parce que l'équipe de Saint-Étienne, je l'ai trouvée particulièrement faiblarde et guère que Montpellier qui m'avait fait cette impression de vraiment être une équipe
totalement insipide. Ah ouais. Et invisible. Ouais. Comment dirais-je, aucune réaction pour parler football dans un premier temps, on veut dire que la barrière qu'ils avaient mise, autrement dit leur défense qui ne sortait pas, pas de pressing particulier, pas d'implication dans le jeu, pas de construction, et nous ont laissé dérouler. Nous avons fait de ce que l'on en voulait. On aurait peut-être pu appuyer un petit peu plus de manière à être plus prolixe au niveau score. Bon, prenons les choses par le début et sur la présentation de ce match qui semblait justement un peu incertaine au départ par rapport au fait que nous tombions contre une équipe retranchée sur elle-même. Mais bon.
Voilà. Oui, parce que ce qui est quand même à signaler, je parlais avec les collègues, avec des amis devant le match. Et avant le match, on disait on est meilleur. Il n'y a pas photo.
C'est intrinsèque, c'est clair.
Voilà. Par contre, attention, une équipe qui joue la survie, ça file. Ça rentre, ça met les crampons. Ça... Et c'est vrai que même là-dessus, sur l'engagement, sur la hargne, sur le rentre dans la gueule, pas
ils
vu
ont
grand-chose.
Été inexistants.
Ah oui, oui, ah, oui, oui. Oui. Courageux, un bon gardien qui leur a évité une fessée monumentale.
On peut le souligner, un très voilà. Bon gardien, c'est pas non.
D'ailleurs, la meilleure note dans les journaux et dans les médias, la meilleure note de Saint-Étienne, le gardien. Une défense qui a fait ce qu'elle a pu. Voilà, costaud, bonne de la tête, hein, rigoureux, mais pas extraordinaire. Puis alors, une équipe offensivement, rien quoi. Il y a un peu l'ancien de Bordeaux, là, le géorgien d'Habitachvili.
Oui, oui, oui. Yachvili qui a essayé d'apporter quelques salves offensives. Voilà. Mais c'était véritablement, je parle d'insipide, mais c'était stérile. Aucune envie collective en tout cas.
En fait, quand tu regardes, c'est celui qui jouait côté droit.
Oui.
Là où l'arrière-gauche, c'est Merlin qui joue milieu de terrain.
On va en parler.
Et donc, il a pu bénéficier du fait qu'il n'avait pas un marquage très strict. Et en fait, c'était le Kondogbia stopper gauche qui s'occupait de lui.
Et oui, Merlin étant beaucoup plus offensif. Oui,
Merlin étant constamment devant. Donc, plusieurs fois, il a été trouvé sur le côté. Mmh. Et il a essayé de faire. Mais alors, les autres, d'une faiblesse rare. Et... Moi, ce qui m'a surpris, je m'attendais avec le public, je m'attendais à ce qu'on se prenne dans les chevilles.
Absolument.
Voilà. Et bon, ça n'a pas été le cas. Heureusement pour nous, je pourrais dire, parce que nous, on râlait devant le match, le fait qu'on n'est pas arrivé à tuer le match après le but de Rabiot.
Il est vrai.
Tu aurais dû marquer une deuxième avant la mi-temps, tu avais largement la place, et tu as attendu la 65, le pénalty, le but de Greenwood, pour faire le break. Mais même à 2-0, tu n'es jamais à l'abri.
Arrivé au terme de cette première mi-temps, malgré le fait qu'on ait eu 2-3 occasions, on parlait de Merlin qui a été très offensif sur son côté gauche et qui recentrait évidemment son jeu, qui était plus axial dans sa démarche offensive également. Et donc couvert, comme tu le disais, et Kondombia qui faisait l'axial gauche et qui voilà. Et de l'autre côté, évidemment, Luis Enrique avec Murillo qui justement on fait en sorte que ce côté droit, de notre côté droit, soit
ils se sont baladés, quoi.
Soit justement plus que lisible. On a fait ce qu'on a voulu, des ballons assez fabuleux. Là, on ne jouait pas la baballe.
Voilà.
On a essayé de construire et il y a eu de très très belles réalisations.
Voilà, et disons que on a le sentiment, alors on n'invente rien parce que tu regardes les journaux ce matin, j'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux. Et j'ai RMC, Foot Mercato, et puis j'ai lu l'équipe et la province. Tout le monde se dit, ça y est, De Zerbe a trouvé son groupe, une défense à 3, une ligne de 4 devant, d'où Luis Enrique plutôt que Rao, parce que Luis Enrique, il défend. Il fait un gros travail défensif de retour, de récupération. Il protège. Merlin à gauche, qui quand même est un arrière de formation, donc qui, même s'il est très offensif et qu'il laisse des trous derrière, il a quand même des bons réflexes.
Et qui a été bien couvert en défense, sur son côté.
Par Kondombia, qui a fait son match. Et puis surtout, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est ce duo Rongier-Højbjerg à la récupération au milieu, quoi. Parce que là, les mecs, c'est... Avec Rabiot qui fait de très bons matchs, un peu plus en avant.
Qui était un peu plus offensif, en tout cas.
Avec le problème que ça pose, c'est que du coup, le pur attaquant, il te reste Greenwood et Mopé.
Oui.
Ce qui fait qu'il y a peut-être un attaquant, ça peut être Rowe, ça peut être...
Alors, restons sur le milieu, justement, que tu as cité. Højbjerg et justement Rabiot avaient la possibilité d'être plus offensifs et en l'occurrence ils ont su tous les deux profiter de certaines incursions et de pouvoir jouer offensivement avec les joueurs de couloir et même Mopé qui passait souvent devant son défenseur qui arrivait à trouver des déviations et justement remettre le ballon à ses partenaires sur le but. Il est à l'origine, le but de Rabiot. Mopé qui a su passer devant son défenseur et faire une déviation encore superbe et justement avec une finition, réalisation de Rabiot.
Superbe.
Extra.
Oui, très très bien joué. Et Mopé, il a ce gros avantage, c'est pour ça qu'il a pris la place d'avant-centre à Hawaii. C'est qu'il joue en pivot, c'est-à-dire il est dos au but, il bloque la défense centrale et ça fait 4 passes décisives en 4 matchs là, où il donne des ballons, il fait des belles remises, là la remise en louche en dessus de la défense à Rabiot, elle est très très chouette.
Ah, c'est super.
Et oui, il fait un super truc. Et c'est vrai qu'il a ce que Wai n'a pas. Wai, c'est plus un attaquant de profondeur. Lui, il bloque dans la surface et il sert à remiser. Et à plusieurs reprises, il a remis des ballons sur les côtés et tout. Et dans ce rôle-là, il est nettement supérieur. D'ailleurs, on va dire un mot de Wai sans être...
Voilà, parce qu'il a fait son apparition donc en fin de deuxième mi-temps.
Voilà, 69e, De Zerbi a fait sortir Rongier. Je pense que c'est parce qu'il avait pris une carton jaune.
On peut parler de ces remplacements, justement, qui ont quelque part, je ne sais pas si on peut parler du fait que, le fait qu'il ait pris une carton jaune motive son remplacement. Mais en même temps, ça a permis à Kondombia de retrouver un poste originel qui est celui de milieu de terrain, et en même temps, bon, ben, de revoir un peu les effectifs au niveau derrière, hein, que ce soit Cornelius, Brassier, bon, avec quelques guillemets.
Alors, Cornelius revenait de blessure. Voilà, donc, c'est lui qui est rentré à la 69 à la place de Rongier.
Oui.
Kondogbia est monté en milieu récupérateur à côté d'Hoiberg. Et Wahi est rentré à la place de Mopé en pointe.
Alors, on peut faire une petite parenthèse. Oui. Il a été nominativement inscrit sur le
oui, à
les sorties. Oui. C'était assez... Enfin, oui. C'était... voilà,
voilà le, l'arbitre.
Rigolo. Donc, le fait est que ce soit Wahi qui remplace Rongier et non pas Mopé, quoi.
Voilà. Et Cornelius qui remplace Mopé.
Mais c'était peut-être pour ne pas froisser qui que ce soit
non,
dans cette démarche.
Le quatrième arbitre qui s'est raté comme une buse. Ouais. Il ne doit pas connaître les joueurs. Après, il a fait vers la 75e, 19e, un truc comme ça. Il a fait rentrer... c'est qui est rentré
Rowe
et Brassier sont rentrés,
Brassier
à la
sont rentrés carrément à la fin.
Oui, à la
bon,
fin.
Évidemment que le match a été perturbé par des fumigènes, donc la visibilité était assez fortement réduite. Peut-être sauf pour les Marseillais qui étaient vêtus en orange. On ne voyait que sur le terrain et on ne voyait rien d'autre.
Ah, ouais.
L'enfer vert était vraiment gris.
Oui, oui. Mais donc il y a eu des rentrées et il a fait un peu évoluer l'équipe. Il a fait sortir Greenwood, il a fait sortir Luis Enrique.
Qui a tellement donné, comme d'habitude, sur son
voilà,
côté.
Voilà, c'était pas la peine. Et je pense surtout à la fin, dans les arrêts de jeu, quoi. Juste avant la fin du match, il a fait rentrer Rowe, il a fait rentrer Brassier pour les relancer un peu.
Bien de toujours les sentir concernés.
Voilà, exactement, pour se sentir concernés.
Ne soient pas démobilisés voilà. Totalement.
Alors, ce que par contre on peut dire là-dessus, c'est que Wahi a fait une rentrée moyenne.
Parlons-en justement. Voilà. Il a eu donc, sur sa rentrée, deux occasions qui étaient assez quand même... il aurait pu en réaliser une sur deux. Voilà. Peut-être pas la première, mais la seconde. Il a été peut-être un peu malchanceux face au gardien qui a été très bon.
Ou alors, il n'est pas en confiance et il n'a pas été très bon. Ça m'a rappelé le match, c'était où il était rentré en championnat au Vélodrome. Oui, je crois que c'est Monaco. C'est contre Monaco, où Balerdi lui fait une ouverture de 40 mètres en profondeur, 35 mètres, où il se retrouve en tête-à-tête avec le gardien, où il tient sur le gardien. Voilà.
Il y a eu cette ouverture d'Holberg, justement, qui lui a permis de se retrouver face à face avec le gardien stéphanois, et là, malheureusement, il n'a pas pu concrétiser.
Voilà. Alors ça, en général, parce qu'après, il faut être dans la tête du gars, hein, c'est souvent la preuve d'un mec qui n'est pas en confiance, d'un attaquant. On le voit et on en parle beaucoup avec Mbappé. Sur certaines actions, tu vois que le mec, il n'est pas en confiance. Il y a une époque où le ballon, il le mettait dedans. Et voilà, là, actuellement, il n'est pas
ressenti est évident. Ouais.
Voilà, il a complètement raté. Donc, c'était une bonne idée d'essayer de le relancer. Comme
absolument.
Contre Monaco, il a essayé de le relancer. Mais tu sens le gars qui n'est pas en confiance. Et c'est vrai que dans le système de jeu, Mopé qui joue dos au but, qui remet beaucoup, qui est bonne technique dans les remises, est beaucoup plus adapté que Wahi qui est plus ce mec qui fait les appels dans la profondeur.
Je trouve que l'adaptation collective est beaucoup plus pertinente. Notre jeu développé, c'est vrai que ce qu'apporte Mopé en passant devant son défenseur, par exemple, il arrive justement à donner les bons ballons, les bonnes déviations, à jouer devant son défenseur et à orienter le jeu de la meilleure des manières. Voilà. Et de la profondeur, c'est compliqué de la trouver quand nous jouons contre une équipe qui ferme totalement et c'est très très compliqué de rentrer et de trouver la profondeur.
Voilà, et c'est sûr que Saint-Étienne, même mené, même 2-0, ils ont continué. Alors, ils ont sorti un de leurs centraux pour faire rentrer un milieu, mais enfin, à aucun moment, ils se sont jetés à l'abordage, et ils sont partis à la charge, sabre au clair, t'es 2-0, t'es mort. Moi, je m'attendais à ce qu'ils essayent d'enflammer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on râlait qu'on n'est pas mis un troisième, un quatrième.
Eh oui.
Parce qu'à 2-0 à 20 minutes de la fin, tu n'es pas à l'abri. Si tu as une bonne équipe en face.
Nous ne l'étions pas, voilà. Sauf que là, sereinement, ah oui. Ils n'ont démontré aucune velléité offensive. Ah ouais. Ils t'emmenaient 2-0, bon sang, mais si tu ne le fais pas, là, tu ne le fais plus. Quoi.
Oui.
D'essayer, de tenter, voilà, d'aller de l'avant, non,
de
aucune manière.
De balancer les ballons et d'essayer d'aller à l'abordage. Et même là, parce qu'on a toujours gardé le contrôle, ça par contre, c'est extrêmement positif. On avait le ballon, on jouait, pif, paf, pouf, on les a. Et oui, je disais, le changement de la 78-19, là, juste avant un quart d'heure de la fin, c'est un jeune qui a fait ses débuts.
Ah oui, absolument, cet arrière gauche,
voilà,
me semble-t-il.
Ce garçon qu'on a piqué à la Gioxerre cet été. Son premier match en Ligue 1.
Alors qu'il n'a pas le statut encore de professionnel.
Voilà, qui va passer pro, là, et qui s'appelle Alexis Koum, qui a 19 ans et qui arrive de la Gioxerre, et qui a fait ses débuts, qui a été, ma foi... Alors, c'était pas très compliqué, hein, il est rentré à la place de Merlin, côté gauche. Il a plutôt défendu, puisque ça correspond au moment où Saint-Étienne avait fait sortir une centrale et avait fait rentrer un milieu. Il a rééquilibré un peu, mais il a fait une rentrée correcte pour un jeune.
Oui, très bien conseillé par ses partenaires qui l'ont justement accompagné, épaulé, conseillé.
Oui, oui, oui.
En l'occurrence, Rabiot, Hallberg.
Rabiot, Kondogbia et Hallberg qui étaient à côté de lui. Et ce qui est bien, parce que tu as fait débuter un petit jeune, et tu as redonné du temps de jeu à deux joueurs. Alors Rowe, c'est un joueur intéressant, mais il est trop offensif.
C'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué. Donc il paye un peu le fait qu'on ne joue plus en 4-2-3-1, avec un 10, avec deux ailiers qui débordent et qui dribblent. Greenwood est recentré derrière l'attaquant.
En l'occurrence, hier soir, ça a été très axial au niveau offensif. On n'a pas utilisé beaucoup les couloirs et on a été performant dans l'axe. Pourtant, c'était verrouillé au départ, mais ça ne nous a pas empêché de développer quelque chose de fort intéressant.
Et c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le rôle de pivot de Mopé qui joue dos au but, qui remet, qui décale. Parce que les ailes sont prises par les latéraux.
Mmh.
Alors, Luis Enrique qui joue couloir droit et Merlin couloir gauche, qui ont fait un bon match tous les deux d'ailleurs.
Oui.
Et tu as donc Mopé qui te sert à décaler et qui joue en remise avec, en l'occurrence, Rabiot pour le but ou Greenwood. Et même sur l'action du pénalty, il fait un appel qui débloque, qui permet à Greenwood de rentrer. Bon, après, les Stéphanois.
Tous ces déplacements, tout ce jeu sans ballon qui a été formidable
de
la part
bon.
De nos offensifs, de nos milieux, de nos latéraux qui étaient plus ou moins offensifs. Merlin, en l'occurrence, il était beaucoup plus qu'Enrique qui avait pas mal de boulot. Il devait évidemment... Et je pense à un métronome également dont nous avons parlé, qui a pris une carton jaune un peu... Allez. Qui a dû sortir en deuxième mi-temps. Ben, Rongier, c'est vrai qu'il canalise beaucoup de choses et permet une évolution du jeu qui est quand même... on arrive à trouver quelque chose de... En tout cas, j'ai passé un moment superbe, je trouve. C'est à titre personnel. Peut-être le plus beau match que j'ai vu depuis le début de cette saison. C'est un avis personnel.
Oui, c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait. Il y avait quand même eu une bonne mi-temps à Brest.
Oui.
Une bonne mi-temps à Montpellier, mais pareil, Montpellier, c'était un peu faible.
On peut parler d'adversité ou d'opposition qui sont légères.
Et si on sort le match à Lyon, mais qui était un match irrationnel, parce que...
Totalement.
Voilà. Avec l'expulsion à la quatrième minute de Balerdi, le match, il a été faussé. C'est un match où tu as eu la maîtrise tout le long. Tu les as promenés parce que moi j'écoutais après les commentaires sur un peu les réseaux sociaux, les radios, ce que je faisais pas toujours, mais comme on vient à l'émission, on se renseigne, on regarde.
Si les autres sont de notre avis.
Voilà, non, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'adversité était très faible, elle est faible parce que tu l'as rendue faible.
Absolument.
Parce qu'on l'a vu contre Monaco, le but qu'on a encaissé, le premier but de Monaco, c'était un ballon perdu par Rongier d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au milieu, tu essaies de remonter balle au pied, tu te fais intercepter une passe et tu te prends un contre.
Une rare erreur lourde de conséquences alors qu'il avait fait un match extra. Oui.
Alors que, bon, il a fait une erreur, ça a coûté un but, mais enfin, c'était Monaco. Hein. Oui. C'était Magnès Akliouche, c'était Golovin et c'était Zakaria. Les mecs ont touché le ballon, donc c'est pas des peintres, quoi. C'est pas le même niveau. Mais tu as eu la maîtrise totale. Et Saint-Étienne a été faible parce qu'il manque de talent, tout simplement.
On en revient à ce que tu disais, l'adversité est une chose et le manque de talent, c'est un fait. Mais on a su anider toute possibilité de leur part de développer quoi
que ce soit. Voilà, parce que tu aurais fait des erreurs, tu leur aurais lâché des ballons, ils auraient pu tenter des coups, des contres. Parce qu'effectivement, quand tu as la balle, c'est quand tu remontes, hein, que tu es à ton milieu de terrain, ce qui était arrivé contre Monaco. La passe de Rongier, tu es intercepté et tu te prends un contre et un but en 5 secondes. Eux,
le
tu leur as pas...
par excellence.
Voilà, tu ne leur as pas donné l'occasion. Et moi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que tu as gardé la maîtrise. Et Balerdi, dans les interviews d'après-match, il était sur DAZN. Il a dit, on a su rester concentré.
Mais il a fallu tout de même, petite parenthèse, non pas le rappeler à l'ordre, mais le calmer un petit peu parce qu'il était assez excité en fin de match et ce n'était pas le moment de se faire avertir. Quoi.
Oui, oui, oui.
Donc, oui.
Mais après, j'ai regardé un peu les images. Il y a l'attaquant de Saint-Étienne qui est rentré en seconde mi-temps, là. Le grand baraqué, là, Sissoko.
Très virulent, alors maladroit voilà. Ou méchant, peut-être.
Voilà, c'est-à-dire qu'il lui met le coude en arrière, il lui met une mandale dans la gueule. Je ne suis pas persuadé que ce soit une volonté. D'ailleurs, il a pris un carton.
C'était assez volontaire, puisque le geste en lui-même, je dirais, les commentateurs du match ont dit que beaucoup, pour se protéger, vont ça. Non, ça, c'était volontaire comme geste pour cogner son adversaire.
Voilà, donc il a fait. D'ailleurs, il a pris un carton en fin de match. Mais donc, oui, il faut qu'il fasse attention.
D'où la réaction de Balerdi, il a fallu garder son sang-froid, que ses coéquipiers, justement, lui disent allez,
calme-toi.
Et soit auprès de lui.
Voilà,
c'est important.
Et c'est vrai que, bon, il faut qu'il se contrôle, c'est le capitaine en plus. Oui. Parce qu'effectivement, il s'est un peu chauffé. Je pense que le mec a dû le chauffer. Mais après, si Saint-Étienne avait fait un match d'équipe relégable, c'est-à-dire. Ben, tu vas avec tes armes et tu rentres.
T'as rien à perdre, quoi. Voilà, tu joues, tu fais ton jeu, ton match et tu rentres dedans.
Ce
quoi.
Genre de truc de provoque, de coups, de gifle, de main dans la gueule, parce que c'est le main dans la gueule qui lui a mis.
Et ça aurait dû peut-être intervenir plus tôt dans le match.
Oui,
ça.
D'ailleurs, ça aurait pu être dès le deuxième mi-temps, ils étaient bouffés, ils auraient dû peut-être, et je pense que les supporters stéphanois, c'est peut-être ce qu'ils n'ont pas aimé. Ils auraient dû un peu durcir, quoi, un peu rentrer.
Ils ont préféré enfumer la soirée qu'il était déjà pour eux.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, tout dépend après de l'arbitre. Si l'arbitre d'entrée, il commence à mettre des cartons et à te calmer, ça se calme. Mais si l'arbitre, il laisse un peu faire, c'est comme ça que des fois, des matchs, Genève Vienne, d'Angleterre, il y a 3 semaines, où le match, il a un peu dégénéré parce que l'arbitre a trop laissé jouer. Au bout d'un moment, ça devenait règlement de compte à OK Corral.
Pour avoir la juste mesure de cela, c'est quand même la responsabilité de l'arbitre, et c'est loin d'être évident, arriver à canaliser les velléités de chacun, c'est compliqué de savoir calmer sans que ça s'envenime et ne pas se tromper dans les décisions.
Voilà.
Ne pas avertir trop tôt aussi, c'est assez complexe.
On l'a vu à nos dépens d'ailleurs dans certains matchs cette saison, où quand tu avertis trop vite, tu fais des erreurs. Et là, je pense que bon, après, il n'y en a qu'un de Stéphanois qui est venu et qui a un peu, qui a un peu laissé traîner les pieds et les mains. Mais bon, ça aurait pu, mais il faut que Leonardo Balerdi reste concentré et qu'il s'occupe du terrain et du match. Le meilleur moyen de calmer le mec qui fait ça, c'est de les battre. Voilà. Tu as gagné, il a pris un carton, ils ont perdu, et puis c'est bon. Et voilà, et le seul point un peu négatif qu'on peut avoir,
oui,
c'est que tu as bien dominé, tu as dominé 90 minutes. Je crois qu'on est à 70% de possession,
oui,
un truc comme ça.
Ce qui reste assez, assez énorme, hein,
voilà,
à ce niveau-là.
23 tirs, dont 10 cadrés à 5, dont 2 cadrés, c'est-à-dire c'est, il n'y a pas photo. Mais c'est qu'on n'ait pas su mettre le troisième, un deuxième avant la mi-temps, parce que là, vraiment, on le méritait tellement on a dominé la première mi-temps.
Au-delà du fait de soigner notre goal average, oui, comme diraient les Anglais.
Voilà.
Mais nous sommes devant Monaco, on fera un point sur le classement rapidement. Mais il est vrai que bon, ben, on aurait pu marquer un but ou deux de plus, ça n'aurait pas été superflu et on les méritait amplement.
Voilà, et ça aurait pu parce que... Et tu as eu le contrôle en permanence. Et ça, c'est là qu'on retrouve la problématique. C'est-à-dire que de mettre Rabiot en attaquant derrière Mopé, derrière l'avant-centre.
Il a été assez libre. Hein, hier
voilà,
soir.
Il a été très libre. Mais le problème, c'est que tu te prives d'un attaquant pur. En l'occurrence, probablement, soit Harit si tu mets un 10, soit Rowe si tu mets un ailier. Et comme Luis Enrique joue plus, donc il fait un gros travail défensif.
Oui, il reste sur son couloir.
Voilà, il tient son couloir, il fait son job. Et donc, du coup, tu t'es privé de possibilités de te créer plus de brèches. Parce que Rowe, il bouge beaucoup, il dribble, il tente. Ou Harit, c'est un joueur qui dribble, qui a une... même s'il dribble un peu trop, des fois, à mon avis.
Oui.
Mais et disons que tu n'as plus ce truc-là. Et donc... tu as complètement contrôlé et verrouillé le match.
Il y avait Kenwood qui devait peut-être tenir ce rôle. D'ailleurs, c'est ce qu'il a tenté de faire. Il n'a pas fait un super match, mais il a été bon.
Il a été correct, oui.
Il a su animer au niveau axial, du côté droit au côté gauche, changer de côté. Et l'animation derrière avec Rabiot est plus offensif que d'habitude. Et Holberg qui ont pu animer Rongier qui faisait la parade derrière en couverture.
Quoi. Voilà, moi je pense que De Zerbi, il a analysé les matchs. Et il a vu que notre faiblesse, c'est qu'on se faisait transpercer. Et donc, Greenwood, alors, il l'avait sorti à la mi-temps contre Auxerre. Et il avait été mauvais contre Paris. Parce qu'il ne défend pas. Quand il jouait ailier droit, si l'arrière latéral, alors Paris, c'était Nuno Mendes.
Bah, c'est la problématique récurrente.
Voilà.
Du couloir, on ne défend pas, ça ne peut pas fonctionner.
C'était Nuno Mendes et Auxerre jouant avec une défense à 3. Leur piston gauche monte beaucoup. Et lui, il ne défend pas. Donc, tes pauvres défenseurs se retrouvent à 1 contre 2 et c'est compliqué. Là, en jouant en 10, en jouant...
Ben, chose que nous avons fait hier soir.
Voilà.
Hein, jouer à 3 derrière.
Voilà. Jouer plus axial fait qu'il est moins, il a moins des courses arrière pour venir défendre. Par contre, moi, ce que j'ai constaté hier, c'est qu'à la perte du ballon, il essaie de contrer un peu... J'allais dire à la Barça de la grande époque, quand on disait que Messi, Suarez et tout, ils faisaient le pressing 3 secondes. Oui. Dès la perte, ils venaient essayer de gêner la relance.
En tout cas, ils étaient présents pour essayer de gêner la relance.
Et
c'est un petit peu ce que Greenwood a tenté de faire.
Alors que ailier, tu es obligé de suivre ton arrière latéral sur 30-40 mètres. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est beaucoup plus équilibré comme système. L'inconvénient, c'est que tu perds un attaquant pur qui peut t'aider à créer des brèches et tout.
Donc, du coup, on fait l'impasse sur un attaquant de pointe.
Tu fais donc le choix de maîtriser, de contrôler ton match. Alors que l'autre situation, c'était la position du début de saison. En 4-2-3-1,
oui.
Tu avais donc un 10 et tu avais deux ailiers qui étaient des ailiers de débordement et de dribble.
Voilà, on en revient au milieu, on n'a plus de milieu créateur. Donc, cette parade-là, je la trouve tout de même bien vue tactiquement.
Oui, parce que Carbonnier étant blessé, bon, il est jusqu'à la fin de la saison, il s'est fait les croisés.
Et Harit,
il est revenu de blessure hier.
Bon,
mais
pas encore ça, il n'est pas
prêt. Ça faisait un mois qu'il n'était pas dans le coup.
On le verra peut-être, et ce n'est pas sûr pour le match contre Saint-Etienne en Coupe de France, on peut en parler, du fameux tirage auquel on a failli assister. Mais bon, nous allons discuter ce 32e de Coupe de France face à Saint-Étienne. Donc retourner à Geoffroy Guichard, me semble-t-il que ce sera le 21 décembre.
Oui, le 21. Ouais. Enfin, je crois que la date n'est pas encore fixée.
Pas encore tout à fait
fixée. Pour des raisons de télé, ça sera certainement...
Les annonceurs qui font voilà. La pluie et le beau temps.
Tu auras Lens Paris et Saint-Étienne-Marseille sur France 2. Tu peux jouer ta paye là-dessus. Pardon.
Certainement.
Voilà.
Bon, je ne jouerai pas ma paye, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous l'aurons sur une antenne que tout le monde pourra suivre. Voilà, ce match.
France 2, France 3, on aura gratuit, ça va changer. Et là, par contre, l'erreur à ne pas faire, on a vu hier soir, matin, j'en parlais avec des copains au café, on faisait le débriefing. C'est on est largement plus fort. En coupe, on va se les plier. Mmh. Un match de coupe, c'est un match de
coupe. C'est un match de coupe.
Si eux font ce qu'ils n'ont pas fait là, c'est-à-dire ils rentrent dedans, ils n'ont rien à perdre, c'est sur un match. Tu n'as même pas à te soucier des cartons et tout, tant pis, tu tentes. Il ne faudra pas vendanger. Si tu as les occasions, il faudra les mettre.
Non, il ne faut pas s'imaginer que c'est un acquis, qu'on est au-dessus d'eux et que le match se suive et ne se ressemble pas, forcément. Donc, il faudra évidemment l'appréhender de la meilleure des manières. Alors, il est évident qu'on a eu pas mal de déconvenues. Je me rappelle d'une année, je crois que je ne suis pas le seul à m'en rappeler, où on a perdu face à Annecy alors qu'on avait éliminé le Paris Saint-Germain. Paris, voilà. Oui, donc, au-delà de la boutade, soyons sérieux, continuons, mais nous sommes dans une optique plus que favorable et j'ai pris un énorme plaisir en regardant ce match.
Voilà, et c'est sûr que quand tu en as toutes celles et ceux qui ont regardé le match, tu es meilleur. Voilà, attention, c'est un match de coupe et attention, il se peut que Dalloglio, l'entraîneur de Saint-Étienne, il joue sa tête sur ce match.
Ah, il y a de
parce qu'ils sont barragistes, donc ils sont mal. Ils sont dans la nasse.
Ben voilà, ils sont pas loin de Montpellier, quoi. C'est une boutade. Ouais. Et bon, bientôt, il y a le Havre qui est un peu au-dessus, qui est 16e. Mais bon, nous allons les rencontrer donc après la petite trêve hivernale.
Et donc là, le match, il faudra faire attention. Mais avant, samedi à 17h,
n'oublions pas ce match plus qu'importantissime.
Voilà. Parce qu'on va rappeler le classement, Franck.
Oui.
Paris est en tête.
Alors, Paris est en tête, donc évidemment, avec 34 points. Mais une chose est plutôt intéressante, c'est que l'OM l'étalonne avec 29 points, avec un goal average supérieur à Monaco, qui a 29 points également. Alors, Lille est à 26 points, donc à 3 points de nous. Et Lyon, qui est à 25 points, qui l'étalonne. Mais bon, ce match-là, face à samedi prochain à Lille, que nous recevons, ben là... De tout cœur, et plus que cela, il faut absolument le gagner. Et
Parce que je
l'espère vraiment.
La semaine prochaine, donc, on est 3 points devant Lille, 4 devant Lyon. Lyon joue au Parc contre PSG.
Voilà.
Et nous, on reçoit Lille. Si on arrive, si tout se goupille bien, que Paris fasse leur travail pour une fois, et que nous, on batte Lille. On les met à...
Là, nous sommes à 5 points.
À 6 et
donc
à 7
là,
points, les deux. Voilà. Et donc, ça va être des matchs compliqués. Et il va falloir qu'on joue ça. Et il faudra qu'on soit... Parce que Lille, c'est une équipe costaud qui a montré en Ligue des Champions que c'est une équipe qui a une grosse efficacité. Pas beaucoup d'occasions, mais ils mettent les balles.
Ben on peut parler de leur attaquant, hein,
oui.
Justement, qui a...
Ils ont Jonathan David, le Canadien.
Voilà, qui est le meilleur buteur du championnat.
Voilà. Et ils ont le Bosniaque Zegrova, Edon Zegrova, l'ailier droit, qui est un joueur... Or, nous, c'est un peu embêtant parce qu'il joue ailier droit. Oui. Donc, normalement, l'arrière-gauche, c'est Rongier, mais qui joue au milieu.
Oui, bon.
Et c'est Kondogbia qui sera en face, théoriquement. Donc, attention, c'est un dribbleur. Hein, c'est un très bon joueur. Il a montré en Ligue des Champions que dans des gros matchs contre le Real Madrid, Il a fait son match, le mec. Il aura mis le feu. Hein.
Ils ont des individualités percutantes et voilà. Qui arrivent à faire la différence. Et un collectif qui est vraiment bon, très bon. L'opposition sera évidemment difficile. Mais je trouve que finalement, ben, nous avons appréhendé de la meilleure manière les derniers matchs. Monaco, en l'occurrence, était un bon test. Les Stéphanois hier, évidemment, on ne peut pas revenir du fait qu'ils ont déjoué totalement, que, ben, probablement grâce à notre prestation. Et j'espère véritablement que face à Lille, on n'a pas à les craindre. Ah, c'est une très bonne équipe, mais il n'y a pas de raison que nous ne les battions pas.
Mais c'est vrai qu'ils ont montré en Ligue des Champions qu'ils avaient ce qui est dangereux, un très bon gardien, Chevalier,
aussi. Non, mais
qui est très bon. Une défense costaud, c'est-à-dire, pourtant, tu regardes, elle n'est pas extraordinaire.
D'ailleurs, ce Chevalier qui mérite des sélections, mais on l'a mis de côté par rapport à plusieurs faits physiques, sa taille en l'occurrence.
Oui, il n'est pas... Mais c'est
très bon gardien.
C'est quand même, il a été convoqué dans la dernière sélection. Bon, il n'a pas joué, hein, mais il était troisième gardien au mois de novembre.
Par rapport à ses prestations récentes, il le mérite amplement.
Franchement, il avait fait contre le Real, il a fait un arrêt extraordinaire. Enfin, c'est vraiment un bon gardien. La défense est costaud, le milieu est travailleur. Moi, j'aime beaucoup le jeune Bouadi, qui a 17 ans, là, le gamin.
Ah, quel talent!
Voilà, et puis Benjamin André, on peut dire... Il est bourrin. J'aime bien avoir des
très
bourrins
efficace.
Comme ça. Voilà.
L'ensemble est plus qu'homogène et performant.
C'est un guerrier qui lâche pas. Ils ont des bons joueurs de ballon devant. Zegrova, ils ont David.
Pour revenir à Jonathan David, qui est le meilleur buteur, je crois, avec 12 buts.
Oui, 12, ça, je crois. Ouais, 12.
À quoi qu'il est talonné par, ne l'oublions pas,
Greenwood.
Le nôtre, Greenwood. Et Barcola également. Voilà.
Mais,
12 buts, ouais.
Et puis moi, je me méfie de Cabella, ancienne du club.
Il est capable de nous faire un coup de Jarnac, c'est évident.
Il est capable de rentrer et qui aura une surmotivation, ce qui est normal, hein, c'est un bon mec, Cabella. Oui. Et qui est quand même, même s'il a un certain âge maintenant, c'est un joueur de talent, il a 33 ans, ou un truc comme ça. Mais il est encore capable de belles choses.
Non, mais il a démontré cette année, il a une capacité technique et d'adaptation. Voilà. Et quand il est motivé, il est capable de casser la baraque. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas face à nous.
Voilà, mais j'espère aussi, surtout que leur entraîneur est un spécialiste des coups en Ligue des Champions.
Oui.
Il a réussi quelques... C'est un des rares qui s'est fait à la fois à L'Oréal. Il s'est fait Man City, il s'est fait l'Atlético Madrid à Madrid.
Rien que ça.
C'est un entraîneur c'est un bon entraîneur français, mais qui a quand même qui est capable de coups sur des matchs comme ça. Donc il faudra faire très attention. Mais je pense que mentalement, l'équipe, la mise au vert qui a été faite avant le match contre Monaco, oui, a certainement dû être utile parce que tu sens un groupe soudé.
C'est une évidence.
Voilà, tu le vois dans les embrassades après les buts, tu les vois dans les réactions. Tu as une équipe, voilà. Tu as un vrai groupe. Et ça peut nous permettre de...
Et quand la victoire est là, évidemment, ouais, ça consolide toutes ses bases. Voilà. Et au-delà de ça, il y a quand même justement ce groupe... était déjà né il y a plus que quelques semaines, il y a quelques mois, mais j'ai l'impression que là, il y a une équipe qui est née, qui est loin de s'être dessinée, qui est juste... je crois que ces idées de jeu, cette fois, sont établies. Pour les joueurs, c'est un acquis, une envie de continuer cela, et justement, ils sont imprégnés par ce jeu-là. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, justement, sur les relances de derrière, comme nous faisons habituellement. Parfois, ça nous embête un petit peu, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la baballe, ils vont perdre le ballon. Mais qu'est-ce que c'est passes approximatives, que c'est dangereux dans la surface, aux abords de la surface. Mais non, c'est finalement, je trouve que hier soir, en tout cas, on a été parfait dans ce registre-là. Même, bon, évidemment, c'est Saint-Etienne, on va toujours y revenir. Ouais. Mais non, j'ai trouvé que ça commence un petit peu à prendre tournure sur ces premières relances. Et on l'a vu déjà face à Monaco et face à Lille. Ben, on concrétisera ça par un spectacle extraordinaire, une victoire à la clé. C'est plus qu'un avis personnel.
Voilà, espérons-le. Oui. Et pour revenir à ce que tu disais qui est juste... Par rapport au début, d'abord, il y a un élément, c'est que avec les blessures, les suspensions, les problèmes, c'est pendant très longtemps, il n'a pas pu aligner la même équipe. Là, ça fait trois matchs. Depuis qu'il a remis, il a eu l'idée, Rongier à côté d'Hoiberg au milieu, Rabiot un peu plus haut. Tu as à peu près le même groupe qui s'est dessiné. Lens, Monaco, Saint-Étienne.
On avait la même, même équipe que face à Lens.
Voilà. Le seul bémol, c'était Merlin qui revenait de blessure, qui a été remplacé courageusement par Luis Garcia. Garcia était blessé hier. C'est pour ça qu'il y avait le jeune Koum qui était sur le banc d'ailleurs. Et parce qu'il avait, il avait un problème musculaire.
Et Merlin qui a fait une superbe partie.
Qui a fait un très bon match. Et donc, tu as stabilisé une organisation de jeu et une équipe. Et ça, c'est intéressant. Et si tu arrives à gagner contre Lille, si tu arrives à faire ton match, je ne te dis pas comme tu vas à Saint-Étienne en Coupe de France avec comme un mental en acier, comme tu es costaud, quoi. Et là, c'est une très bonne chose. Juste avant la trêve hivernale, les fêtes de Noël, ce qui te permettra de... J'espère, évidemment. Parce qu'après, on redébute en recevant Le Havre au Vélodrome.
Oui, c'est ça. Une équipe également qui est dans le même acabit que Saint-Étienne. Donc, ils sont dans la zone relégable.
Et après, on va jouer à Rennes. Compliqué.
Oh, oui.
Mais où on peut espérer que Rennes, ils vont devoir changer beaucoup de choses au mercato.
Avec Sampaoli, ils seront orientés sur l'équipe un peu plus...
Un peu plus de niaque et un peu différente.
C'est ça. Ouais.
Ce qui veut dire aussi peut-être début mi-janvier, pour le 12 janvier, date du match à Rennes, des mecs qui vont partir, des gars qui vont arriver, les mecs, il est arrivé depuis 3 jours, il n'est pas encore intégré, enfin voilà. Donc ça peut nous laisser une petite perspective. Il vaudrait peut-être mieux les jouer là que les jouer au mois d'avril. Voilà.
Puisque nous parlons de ce sujet, petite parenthèse OMS, dirais. J'ai entendu un propos assez intéressant de la part de Rabiot, qui a été sollicité par les journalistes en lui parlant de Paul Pogba. Oui, mais je l'invite de coup de cœur à venir. On s'est connus un petit peu à Turin, là on va se retrouver à Marseille. Alors au-delà de la boutade de mon propos, qui n'en est pas une, est-ce une possibilité à laquelle on pourrait s'atteler? Bon, il est évident que ce n'est pas le joueur qu'il nous faut en priorité, comme nous l'avions justement dessiné dernièrement. Mais bon, c'est vrai que ça serait extraordinaire, quoi. Mais bon, on est dans une supputation qui, à mon avis, restera une supputation.
Oui, parce que moi, j'y crois pas une seule... Enfin... Non seulement j'y crois pas une seconde, mais je dirais même, alors sans être avec beaucoup de respect pour Paul Pogba, qui a été un immense joueur et qui reste potentiellement un super joueur, quand il va reprendre, il a droit de rejouer début mars, le 11 mars.
C'est le 11 mars, c'est ça.
Voilà, ça fera 2 ans quasiment qu'il n'a pas joué. Et tu le vois avec les gars qui reviennent de blessures, les croisés et autres, après 7-8 mois. Là, je lisais un truc dans l'équipe l'autre fois sur Kimpembe, le joueur du PSG, qui s'est pété. J'y étais, donc je l'ai vu. Il était au Vélodrome. Il s'est mis à courir sur une action. Il s'est arrêté net. Il est tombé. Il était plié en deux. Il s'est fait le talon d'Achille. Rupture du tendon d'Achille. Et le mec, il n'a pas encore rejoué, ça fait presque 2 ans.
Bah, tu ne reviens plus là.
Tu reviens très difficilement.
Non, surtout, tu ne reviens plus au niveau auquel tu étais.
C'est rare, les mecs, il y a 31 ans, parce qu'un mec de 22, 23, 25 même, à 31 ans, c'est très... Il a 31 ans, Paul Pogba, c'est très compliqué. Et au mois de mars, il ne retrouvera jamais, avant la fin de la saison, un niveau de qualité.
Il est vrai que sportivement, tu ne peux pas retrouver un niveau auquel les gens attendraient, mais non.
Voilà. Et toi,
c'est plus pour vendre des maillots à la limite.
Voilà, exactement. Et toi, au mercato, il te faut une centrale, parce que Kondogbia dépanne.
On en revient à la priorité.
Voilà, la priorité, c'est une centrale gauche, Kondogbia dépanne, mais il ne peut pas. Il te faudrait un latéral. un peu plus, voilà, un peu plus solide. Murillo fait ses matchs. Moi, Murillo, j'apprécie beaucoup. N'oublions jamais que Murillo, tu l'as acheté 2,5 millions d'euros à Anderlecht, en Belgique.
Tiens, hier, si je ne me trompe pas, on lui a laissé tirer un coup franc plein axe, enfin, légèrement désaxé à gauche, mais entouré de Greenwood, etc. Ils l'ont laissé tirer. Quoi. Ça prouve bien qu'il a une confiance.
En lui, c'est un mec solide qui fait ses matchs, qui a une super mentalité, qui est bien est apprécié dans le groupe. Son seul problème, c'est qu'il est panaméen, donc extra-communautaire. Et que comme tu n'as que 4 places, il y a les deux Anglais, Rob et Greenwood, et tu as le Canadien Cornelius, et tu as Luis Enrique, le Brésilien, mais je crois que c'est Cornelius qui a eu un passeport...
Européen,
scandinave, ou un truc comme ça. Suédois, je crois, un truc comme ça. Comme l'autre Canadien. Ismaël Koné, qui a un passeport ivoirien. Côte d'Ivoire, c'est communautaire. Donc, par contre, ça serait pas mal de trouver. On parle de Sildilia, on parle de se faire prêter Boé par. Ça, j'y crois pas du tout. Le Bayern a trop de matchs à jouer pour te prêter leur remplaçant. C'est pas. Voilà.
Bon, même s'il ne l'utilise guère, il ne l'utilise pas.
Oui,
c'est pas pour cela qu'ils vont te le prêter.
Voilà, je regardais France Foot pour avoir les compositions d'équipe. Ils avaient joué en faisant jouer Guerrero, le portugais, l'ancien joueur de Lorient, qui est arrière-gauche, qui est gaucher.
Ce joueur fabuleux.
Voilà, excellent joueur.
Qui est toujours présent et toujours aussi bon.
L'ancien de Dortmund et tout. Ils ont fait dépanner arrière-droit sur plusieurs matchs. Donc ça veut dire, parce que Boé était blessé, il revient de blessure. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être envie de garder le remplaçant pour s'il y a un blessé, s'il y a un problème, s'il y a une rotation. Donc moi, je n'y crois pas. Par contre...
Ça reste une possibilité.
Voilà. Sildilia, c'est intéressant.
Oui.
Mais donc, ta priorité sera un latéral et surtout un axial.
Un axial, ouais, côté gauche, de préférence.
Éventuellement, si tu arrives à prêter, parce que tu ne le vendras pas, Eli Wahi, pour qu'il retrouve un peu de confiance. Moi, j'aimerais bien en Allemagne.
On en a parlé à l'émission précédente.
Voilà.
Il est probable que... On le destine à un prêt. Sera-t-il d'accord Rien n'est moins sûr.
Mais il a intérêt parce que moi je disais l'Allemagne parce que l'Allemagne, comme vous savez tous, c'est un championnat très offensif où les attaquants flambent. Et Wahi, qui est beaucoup dans la profondeur, qui est rapide, c'est un championnat qui peut l'intéresser.
On ne pourra pas le prêter en première ligue. C'est évident.
Ça serait compliqué en première ligue. Et par rapport au grand championnat, le championnat où les attaquants ont le plus d'espace, il y a le plus d'appels en profondeur, on l'a vu avec Ekétiqué, avec Kolomouani.
Oui, ça reste en Allemagne, tout
à fait. C'est un championnat où ils ont flambé, les mecs. Et donc, ça pourrait être intéressant, si tu arrives, ce qui n'est pas acquis, à le prêter, ben, il va te falloir un autre avant-centre. Donc, la priorité n'est pas un milieu de terrain où tu as Højbjerg, Rongier, Kondogbia, qui est normalement à ce poste, même s'il dépanne derrière. Tu as Koné, qui va retrouver du temps de jeu. Et tu as Rabiot, qui peut reculer. Voilà. Et tu peux avoir Harit, qui, au Vélodrome...
Voilà, Koné, il faudra bien l'utiliser.
Voilà.
Et non pas dans un registre qui n'est pas le sien.
Voilà. Donc, si tu veux...
Donc, c'est le jeu des chaises musicales qui fera le...
Le poste de Pogba, milieu relayeur, c'est le poste où tu n'as pas besoin. Tes priorités, c'est un latéral, c'est surtout un axial, et c'est si tu arrives, un avant-centre. Voilà. Oui. Un attaquant de pointe, un avant-centre. Et à ce moment-là, ta priorité Pogba. Après, Rabiot, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? C'est son copain, ils se connaissent de l'équipe de France.
Il est évident qu'il ne pouvait pas répondre autrement que
Oui, voilà, que il ne peut pas dire on s'en tape, il fait sa vie, bonne chance. Voilà. Il dit ça, mais c'est de
Il faut être pragmatique.
Voilà, c'est de la politesse, c'est un pote. Mais ce n'est pas le joueur dont tu as besoin.
Mais il est vrai que, bon, j'en reviens au jeu des chaises musicales. Bon, pour pouvoir accéder peut-être à un autre offensif, attaquant de pointe, avant-centre en tout cas, il faudrait que nous puissions prêter Wai.
Voilà. Mopé, il n'y a pas de lézard, tu le gardes.
Alors derrière, peut-être que bon, il y a quid de Brassier, parce que bon, nous l'avons quand même. C'est un joueur de qualité, mais je ne pense pas qu'il puisse, je dirais.
L'idéal, si on peut, c'est de prêter les deux,
ouais,
pour qu'ils se relancent, qu'ils retrouvent. Parce que le problème de Brassier, on l'a déjà dit à cette antenne, c'est un mec qui suit la peur, quoi. C'est-à-dire, là, hier, il est rentré à la 90e, bon, ça va. Il a joué en défense, il s'est mis derrière, il a fermé, mais Saint-Étienne, ils étaient morts. Voilà, les mecs, c'était fatigués.
Les qualités les a, c'est celle...
Voilà, c'est dans la tête.
J'en reviens aux propos que nous tenions précédemment. C'est, y a ceux qui sont faits pour jouer à l'OM et d'autres non. Lui, je suis persuadé qu'il va être très bon dans beaucoup de clubs, mais, voilà, mais pas à l'OM. Ses facultés psychologiques, il n'a pas le mental pour ça, pour chez nous.
Non, mais moi, c'était...
C'est une analyse personnelle.
J'en parlais il y a quelques semaines. Moi, je fais l'ancêtre, mais c'est vrai que je suis ancien.
Non.
Et je me rappelais d'un joueur qui était venu, qui était...
J'ai un ancêtre moderne.
Voilà. Qui jouait à Sochaux, qui était international espoir, qui s'appelait Lada, Eric Lada.
Ah oui, et comment ? Ben, nous l'avons bien connu.
Et, voilà. Et à l'époque, c'était l'époque de Tapie, hein, donc c'était les années, fin des années 80. International espoir, on le voyait gros, il a été acheté, il est arrivé.
Ouais, un attaquant un peu virevoltant.
Un ailier, dribbleur, vif, rapide et tout. Il a fait 2-3 matchs où franchement, il s'est fait contrer 9 dribbles sur 10. Même, voilà, il n'est pas passé.
Pas.
Il s'est pris une bronca rapidement. Et le mec, il n'est jamais revenu.
C'était terminé pour lui.
Voilà. Et là, ça peut arriver qu'un gars, mentalement, ça se goupille mal. Lui, je pense qu'il n'a pas été bon dans les premiers matchs. Alors, le match contre Auxerre...
Oula.
Le ballon, il rate la balle, il tombe...
Cette action... On aurait pu, hier, penser à la faire en Nakata, puisqu'on a joué face à Saint-Étienne. Mais bon, c'était d'un autre acabit, son erreur technique face à Auxerre.
Oui,
mais en fait,
oui.
C'était tout de même assez... ça doit peser,
parce
ce type d'action.
On rappelle à nos auditeurs que Nakata, c'était un arrière-latéral japonais.
Oui.
Et il joue à Saint-Étienne et on arrive la neige, 20 cm de neige. Les mecs, ils déneigent à la raclette. Enfin, le match s'est joué avec un ballon orange parce qu'on ne voyait pas un ballon blanc.
À l'image de nos maillots hier soir.
Voilà, et la couleur de nos maillots hier soir. Et le mec, il a voulu dégager un ballon et il a tapé. Il y a eu un faux rebond, il a tapé à côté. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux à l'époque. Parce que le mec, il va pour frapper et il rate le ballon.
Et on en parle encore.
Voilà, il a tourné en rond, moins une, il tombe. Quoi. Voilà, donc ça. Mais il n'y avait pas eu de but, il n'y a pas eu de problème.
Non, tandis que là, Brassier, ça risque de le fuir.
Ah oui, parce que là, tu dois mettre la tête, tu rates le ballon.
Ouais.
L'attaquant te regarde et il se prépare à suivre. Le goal, il pense que tu vas dégager et il tombe sur le cul. Et le mec, il est seul, il contrôle, il fusille ton gardien.
Voilà.
Je veux dire, c'est le truc grotesque.
Une
quoi.
Maladresse,
voilà.
Une attitude totalement décalée.
Si tu es bien intégré, si tu fais tes matchs, eh ben, tu fais une erreur, tu fais une erreur.
Il ne s'en remettra
voilà.
pas.
Là, moralement, tu as l'impression que, on l'a vu, les rares matchs qu'il a fait, tu sues la peur. Quoi. Et c'est vrai que De Zerbi à ce truc de repartir de l'arrière, d'où le choix de Kondogbia milieu de terrain en défenseur central. Une belle qualité de relance. L'habitude d'avoir le ballon et milieu récupérateur, tu joues sous pression. Tu as le ballon, il faut. Voilà.
Quand bien même, hier au soir, dans sa position de défenseur axial, on l'a retrouvé dans des positions de milieu de terrain pour les relances.
Oui, bien sûr.
Et très propre.
S'intégrant au milieu, relançant,
voilà.
Faisant des passes horizontales de 20-30 oui. mètres, ce que fait aussi Balerdi.
Bon. Une compensation, d'ailleurs, un nombre de ballons incalculables qu'ils ont négocié, Balerdi en l'occurrence aussi,
oui.
Et qui a été un apport offensif. Assez important.
Oui, oui.
Et non, ça a été vraiment.
Et c'est vrai que c'est un peu les choix tactiques de Zerbi que t'es centraux, ou t'es milieu, alors nous c'est Højbjerg, le mec qui joue pointe basse, et une qualité de relance qui te permet de créer des brèches, de casser des lignes. Et Kondogbia, il a quand même une technique de jeu, même si purement défensif, c'est pas un monstre. Mais enfin, il n'est pas mauvais quand même, il fait,
oui,
des,
ça reste,
fait ses matchs. Quoi. Et ça te permet d'avoir une bonne qualité. Et quand le gars, il a peur que dès qu'il a le ballon, il passe en retrait au gardien, ou il fait parce que tu sens qu'il a peur de tenter une passe, c'est compliqué. On parlait tout à l'heure du match contre Monaco. Rongier, tente une passe, elle est interceptée, ça fait but. Ben Rongier, il a repris, ben il a tenté, il s'est fait contrer, ça arrive, il s'est battu, il a fait un très bon match. Tu peux pas te permettre d'avoir des gars qui plongent et qui deviennent, qui se mettent à trembler et qui deviennent inopérants.
Oui, c'est pas cela voilà. Qui va le déstabiliser donc à Rongier, si on parle de lui,
voilà.
C'est clair.
Ça peut être le cas d'un gamin, comme on parlait du jeune Alexis Koum, qui a fait son premier quart d'heure en pro, qui avait jamais joué en Ligue 1. Il fait une erreur, il tremble. Tu peux dire, c'est un gamin, il a 18 ans et demi. Enfin, voilà, quoi.
Il était très bien accompagné et
voilà,
soutenu
un
par
mec
ses
de 24 voilà. ans qui a joué, qui a fait une super saison à Brest l'année dernière. Non, c'est un problème, c'est dans la tête. Voilà. Et je pense que je crains que Wai, ce soit pareil. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en début d'émission, on disait, il a deux actions en fin de match sur des contres. Et les deux fois, il ne joue pas bien le coup.
C'était peut-être, je dirais, une occasion pour lui, au-delà des occasions de but. La première, peut-être, que, oui. Bon, ben, allez, sois instinctif, tape, oui. Ne cherche pas à faire un crochet. Allez, bon, ben, ça n'a pas été. Mais la deuxième occasion, sur une passe de Højbjerg, me semble-t-il.
Oui, Højbjerg, oui.
Mais là, par contre, il y avait la possibilité d'être décisif. Voilà. Il ne l'a pas été. Ça aurait peut-être changé beaucoup de choses au niveau psychologique.
C'est-à-dire, la première, il tente un crochet, oui. Il se fait contrer. Ça arrive. La seconde, il est lancé en profondeur, il arrive seul face au gardien. Et honnêtement, il a le temps. C'est-à-dire,
oui, là, il
a pas...
avait le temps de...
Voilà, le goal, il n'est pas sur lui, quoi. Il sort bien. Il fait son boulot, mais bon, il n'est pas... Et là, c'est là que tu vois le gars qui n'est pas en confiance. Voilà. C'est-à-dire, le mec, il...
Ça aurait pu peut-être créer un déclic.
Eh oui,
c'est ce que De Nervi attendait, peut-être.
D'autant plus que tu es à 80 et quelques minutes,
ben ouais.
Tu mènes 2-0, tu contrôles tout le match. Tu n'as pas de pression. C'est pas, par les pénalty contre Monaco, tu es à la 88e, tu as un péno, la 89 péno, tu as un partout, tu mets le péno, tu gagnes. Voilà. La pression, elle est forte. Là, tu mènes 2-0, tu es tranquille, tu promènes, tu as une occasion, libère-toi, mets-la.
Ben, elle n'a pas su optimiser voilà. Ces
et
moments-là.
C'est ça qui est inquiétant.
Et face à Monaco, peut-être
voilà.
aussi. Alors, peut-être
que
face à Lille, en tout cas, une chose est probable et plus que, presque certaine, c'est qu'il ne sera pas titulaire, d'après moi. Et que, bon, Mopé, évidemment, sera là. Peut-être fera-t-il une apparition. Ça dépendra de l'évolution du score.
Voilà, oui. C'est... Disons que. De Zerbi essaie de manière intelligente de le relancer. Et c'est vrai que là, tu mènes 2-0. Quand tu rentres, il y a 2-0.
Oui.
Hein. Tu mènes, tu contrôles complètement le match. Tu ne sens pas les autres capables de revenir, de retourner
oui,
la table.
Complètement bousillé.
Donc tu dis, voilà, on va reculer un peu. Eux vont essayer, parce qu'ils essayent d'attaquer. Nous, on va jouer en contre.
Ouais,
lui,
ils ont été
il est rapide.
Un peu plus haut en deuxième
voilà.
partie de
ils ont, ils ont essayé,
période.
Ils, ouais. ils ont essayé. Mais donc, tu te dis, c'est intéressant, un mec rapide qui prend la profondeur.
Voilà,
allez,
ouais.
petit, vas-y, prends ta chance.
Et c'était le bon moment. En
voilà,
cas.
Et contre Monaco, la passe de Balerdi, seul devant le goal.
J'avais hein. fait une très belle passe.
Voilà, très très belle passe, Balerdi. Il la met pas et donc... Bon, je reviens à ce que je disais, tu sens le mec pas en confiance. Quoi. Et là, peut-être que le prêter est un moyen de, serait un moyen de l'aider à se relancer parce qu'il est quand même pas mal en galère. Mais enfin, bon, nous verrons bien. Le mercato, on en reparlera la semaine prochaine.
Voilà, parce qu'après le match... que nous allons disputer contre Lille.
Contre Lille, voilà.
Et déjà, on verra peut-être un peu plus clair pour la suite,
oui.
après ce match-là, en tout cas.
Voilà, si on arrive à faire le trou, comme je disais, sur Lyon et Lille, ça te permettrait de respirer parce que c'est
ici pour... Je crois que c'est ça, tu disais que Lyon va à Paris, et pourrait peut-être bénéficier du fait que, voilà, en battant Lille, que Paris Saint-Germain batte Lyon.
Alors, n'oublions pas que Paris joue en Ligue des Champions mardi soir, où on soutient les Autrichiennes Salzbourg.
Sans blague.
C'est mesquin.
Faut croire que les Lillois vont jouer aussi.
Et que les Lyonnais jouent jeudi soir. Voilà, jeudi soir, ils reçoivent l'Eintracht Francfort, qui n'est pas un match commode. Francfort, c'est costaud. Donc, ils auront deux jours de moins de récupération et ils vont à Paris. Donc, on peut penser qu'ils seront en difficulté. Beaucoup plus que si c'était eux, ils n'avaient pas joué. Paris avait joué le mercredi en Ligue des Champions.
Déjà, voyons le match que nous allons disputer. Voilà. Et laissons les autres à leurs affaires courantes.
Comme toujours, nous ne occupons pas des autres. Essayons de gagner nos matchs.
On aura le temps pour se faire.
Et on fera le point sur le recrutement et le mercato lundi prochain.
Voilà, assez rapidement, je voulais faire le tour donc de cette journée. Et ensuite, avant de parler rapidement de nos équipes régionales et de l'équipe féminine qui a joué dimanche. Alors donc, sur cette 14e journée, vendredi, nous l'avons dit, Lille a battu Brest 3-1. Auxerre, nous le savons, a fait match nul face au Paris Saint-Germain. Samedi, Monaco a battu Toulouse sur le score de 2-0. Nice a battu Le Havre 2-1 et Angers a perdu face à Lyon à domicile ce samedi et dimanche. Lens a battu Montpellier 2-0, c'est la fin des haricots pour Montpellier, mais ça fait déjà depuis un petit moment. Nantes, là par contre, est surprend face à Rennes, mais Rennes par contre, nous les jouerons dans quelques semaines, c'est un peu difficile pour eux à présent. Et Strasbourg a fait 0-0 face à Rennes, c'est me semble-t-il que le dernier match c'était nous. Donc Saint-Étienne.
Rappelle-moi le résultat.
Saint-Étienne a essayé de jouer contre nous, mais nous avons remporté le match 2-0.
Voilà. À signaler quand même deux petits trucs. Je recommande à nos auditeurs, s'ils ont l'occasion, de regarder le but de Nantes.
Oui.
89e, Moses Simon, le Nigérian. Alors, Moses Simon, c'est un mec un peu, il n'est pas fini à mon avis. Mais alors, capable d'action extraordinaire, il part de son aile, il efface trois mecs balle au pied, il met une frappe croisée en lucarne, monstrueux, le but de la journée.
C'est le but de l'original, je dirais.
Ah oui,
il a une certaine folie qui l'anime. Quand il peut justement la mettre en œuvre pour marquer des buts, c'est toujours super.
Ah oui, oui, voilà. Et après, s'il était régulier, ce garçon, il jouerait à Manchester City ou un truc comme ça.
Ce n'est pas demain la veille qui pourra accéder à cela.
Voilà, un superbe but. Et puis dire que Montpellier, moi j'ai regardé les commentaires, donc, parce que je fais la revue des réseaux sociaux et de la presse. Et dans l'équipe aujourd'hui, Montpellier, ils n'ont pas été... À Lens, qui est une belle équipe.
Ah, ils n'ont pas démérité.
Ils n'ont pas démérité, puisque le second but, ils le prennent en fin de match. Enfin, je veux dire, ils le prennent en fin de match. Ils sont à 1-0 à un quart d'heure de la fin.
Tu le sais bien, Patrick, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Malgré toutes les bonnes volontés, quand tu es au fond du trou, tu t'enfonces.
Et tu sens une équipe qui manque de chance parce que, premier but, défensivement, il y a beaucoup à dire sur leur défense. Le second but, c'est un contre son camp, où il y a deux joueurs qui détournent le centre, un centre venu de l'aile gauche. Deux joueurs détournent, un met le pied, le ballon il va donc dans le but, le gardien essaie de l'attraper, et il se le met lui-même, c'est-à-dire en fait il le touche, mais il le rabat dans les buts. C'est le but ridicule.
C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher un manque d'implication de leur part, ce qui a été le cas face à nous, mais une chose est sûre, c'est que la maladresse devient... une sacerdoce dans leur jeu. C'est malheureux de dire cela. Ils sont d'une maladresse déconcertante et malgré le fait qu'ils aient envie de bien faire.
C'est pour ça que je vous disais, vous avez le plus beau match, le plus beau but, Nantes-Rennes.
Ah oui, ah ouais.
Magnifique. Et le but le plus grotesque, c'est où les mecs ils se mettent à trois pour marquer contre leur camp. Parce que le goal, il doit l'arrêter. Hein, je veux dire.
Il faudrait pas le dire peut-être à nos amis montpelliérains.
Oui, oui, oui.
Ouais, ouais.
Sinon, on va leur faire de la peine. Mais
je crois qu'ils sont déjà en peine depuis un petit moment.
Sur ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est moins moche qu'il y a quelques semaines. Et Jean-Louis Gasset est en train de faire son boulot.
Parlons de la pâte de papy cassé.
Voilà. Et peut-être que Jean-Louis, avec un peu de... peut-être un ou deux joueurs prêtés au mercato, peut-être eux, ils ne sont pas encore morts.
Ils ouais, sont mais il pas est arrivé peut-être un peu tard pour redonner du pep, c'est voilà. La magie collective,
mais,
malgré...
Voilà, mais il refait quand même, ça ressemble à quelque chose. Et quand on les avait nous battus, ça ne ressemblait pas à grand-chose, franchement. Et là, peut-être parce qu'ils ont, un avantage... C'est que des équipes faibles, il y en a quatre. Voilà. Il y a un, il y a le Havre.
Le classement fait froid, je veux
voilà, dire. Il y a le Havre, il y a Angers. C'est très limité. Donc tu peux espérer, avec un peu de réussite, un peu de chance. Mais bon, on va souhaiter à nos amis montpelliérains, et à Saint-Étienne aussi, qu'on a joué hier soir, on va souhaiter à nos amis montpelliérains. Que ça tourne bien pour eux, même si...
parce oui, que... Le fossé est creusé à présent. Hein.
Oui, parce que Saint-Étienne, il se peut aussi que leur propriétaire canadien, au Mercato, il fasse un effort.
Oui, ils ont une possibilité à Montpellier, cela n'est guère possible, les finances ne sont pas présentes.
C'est plutôt vendre des joueurs ouais, pour limiter la perte, parce qu'on se rappelle que Saint-Étienne, Gasset était leur entraîneur d'ailleurs, ils oui. étaient allés chercher Jean-Louis Gasset, il y a 5-6 ans,
oui, oui, oui.
Ils avaient fait un mercato assez intéressant et ils avaient une équipe qui avait bien remonté la pente, comme Lyon l'année dernière, où ils étaient derniers, où le mercato à la trêve leur a permis. Mais eux, ils avaient quand même mis 150 millions.
Oui. Bon. Après, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, mais c'est le nerf de la guerre, malgré ce, il faut juste savoir bien l'utiliser.
Oui.
Et justement, optimiser. Les transferts que tu réalises.
Voilà.
Voilà. Bon, donc, nous allons justement faire une transition de la Ligue 1 à la Ligue 2 féminine. Tiens donc, on va parler de l'Olympique de Marseille, oui, puisqu'on oui. parle de nos joueuses. Voilà, donc, il y a eu une journée qui ne s'est pas disputée la semaine passée. Et là, l'OM a fait match nul. Face à Lens, qui est premier du championnat de ouais. Ligue 2 féminine. Et, le classement, Lens est toujours premier avec 20 points. Le banc, deuxième avec 18. Talonné par Toulouse avec 15 points, troisième. Et l'OM également avec 15 points se retrouve quatrième. Donc toujours dans la course oui. de cette Ligue 2 féminine en espérant une accession. Et une petite parenthèse en parlant de Marie-Charlotte Léger qui est la meilleure buteuse marseillaise et du championnat de Ligue 2. Et je crois qu'elle a atteint 8 buts à présent sur la 10e journée qui a été disputée hier par l'Olympique de Marseille féminine. Voilà. Alors, également, nous allons parler de National. Voilà. Alors là, par contre, waouh, quelle victoire d'Aubagne.
4-0, je
Et
crois.
Je dis un grand bravo. Et pas face à n'importe qui, quoi. 4-0 face à Nancy lors de cette 14e journée. C'est déroulé ce week-end. Mais bon, ben, Orléans est toujours premier de cette National. Et Nancy, donc, à 24 points. Nous avons Aubagne. Quand je dis nous, c'est Aubagne. C'est un peu la maison, c'est un peu les voisins. Et Aubagne est 7e de ce championnat avec 18 points. Voilà.
Et disons qu'Aubagne, on peut penser que...
Et qui a battu 4-0, donc, Nancy.
Voilà, qui a battu Nancy, qui est quand même une équipe qui a toujours, d'ailleurs, un statut pro. Hein,
ben oui.
Même s'ils sont... Il va falloir qu'ils remontent, sinon ils vont le perdre. Mais
assez étonnant comme résultat.
Qui a le nom du foot français. Mmh. Disons que même si on n'est même pas à mi-championnat, on est pratiquement à un match près à mi-championnat, tu devrais assurer ton maintien tranquille.
Oui, là, ils sont bien. Hein, parce que, oui. Véritablement, ils sont dans le haut du tableau, dans la première partie en tout cas du tableau. Oui. Et avec ce résultat-là, ça va leur donner plus que de l'espoir, en tout cas.
Oui, oui, ils ont retrouvé.
J'ai eu quelques échos et un jeu assez fabuleux qui a été justement distillé par cette équipe.
Ça joue bien, ils rejouent sur leur terrain du stade de Lattre.
Ouais.
Où il a fallu faire des travaux d'éclairage et tout, pour de mise aux normes. Voilà.
Ils ont été beaucoup plus rapides que Martigues, ça voilà, c'est rigolo.
Ils ont été beaucoup plus rapides, et donc ils sont revenus sur leur terrain, ils sont au milieu de tableau tranquille, ils ont confiance, donc ça, c'est très très positif. On ne peut malheureusement pas dire autant de Martigues.
Justement, la transition est toute trouvée. Parler de leur classement serait d'une tristesse désolante. On a parlé de Montpellier, on peut parler de Martigues. L'analogie est faite. Ils sont derniers de Ligue 2, donc 18e. Et encore une défaite face à un voisin, puisqu'ils reçoivent à côté. Face à Guingamp, voilà. 1-0 lors de la 15e journée. Voilà.
Et ça fait quand même, je ne dis pas de bêtises, 6 points de retard sur le 17e.
Sur le 17e, oui.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que ça devient inquiétant, même si ils vont en janvier retrouver leur stade
de
Turquand.
Le stade de Turquand, oui.
Voilà.
Mais bon, cela suffira-t-il?
Voilà, oui, parce que le stade, ça aide.
C'est une chose, mais...
Parce que ce qu'on peut voir, c'est que Guingamp, c'est voilà, tranquille. Et il y a un problème mental dans cette équipe.
Est-ce que les joueurs n'ont pas baissé les bras?
Parce que voilà, tu perds 1-0. Alors c'est sur terre neutre. Enfin, ils jouent à Guignon.
Ben hein, voilà.
Voilà, au stade de la ville à Guignon. Mais tu perds 1-0, un but à la 88e. Bon, dans ta situation, tenir...
Le stade champêtre amical, mais voilà. En tout cas, ça n'a pas donné envie au Martigues de faire plus.
Voilà,
non, pas plus.
Dans ta situation, tu as besoin de points, mais accroche-toi. Prendre un but à la 88e et perdre 1-0, alors que tu es dernier, que tu es en galère, ça veut dire que dans la tête...
Oui, en interne, pas qu'au niveau des joueurs, au niveau du staff, il y a quand même quelques soucis, au-delà des soucis psychologiques, il y a des soucis tout court.
Oui, voilà, c'est-à-dire que le groupe, il a...
Certains ne se sentent plus concernés, les joueurs sont déjà dans une optique de départ qu'ils ont déjà engagé et ça reste...
Voilà, c'est les échos qui reviennent, c'est-à-dire que...
Compliqué à négocier pour
eux. Il n'y a pas de groupe, ouais. Voilà. Il y a des gars qui veulent partir, il y a des mecs qui ne sont pas contents de ne pas jouer, il y a pas mal de blessés d'ailleurs. Et donc du coup, c'est mauvaise ambiance, mal parade, c'est pas très bon. Et...
Aucun élément qui permette de penser justement à...
Voilà. Et c'est une équipe où tu n'as...
À une amélioration.
Tu n'as pas les moyens d'espérer là aussi un recrutement en janvier de 2-3 joueurs qui te permettraient de relancer une dynamique. Tu n'as pas d'argent.
Le financier ne peut pas justement
ne suit pas,
suppléer. Donc, en l'occurrence, ça n'en a pas eux.
Très inquiet pour nos camarades de Martigues.
Oh oui.
Parce que ça semble pas bon.
Ouais, retrouver le stade Turquand serait fabuleux. Ça va se produire donc début d'année prochaine. Mais si c'est pour jouer en national l'année prochaine, le jeu en valait-il la chandelle?
Voilà, les frais engagés. Ouais. Enfin, nous verrons bien, on leur souhaite.
Chaque chose en son temps.
On leur souhaite bonne chance.
Absolument.
Et on est, ma foi, donc on voulait terminer là-dessus. Donc le bon match des féminines, match nul chez le leader à l'extérieur, c'était à Lens. C'est un bon résultat.
Oui.
Aubagne, bon match, bonne confiance, bon état d'esprit, bonne équipe.
4-0 face à Nancy, au deuxième du championnat.
Et beaucoup de courage à Martigues qui va en avoir bien besoin.
Ben, nous sommes de tout cœur avec eux.
Et on va se quitter là-dessus, je pense.
Oui.
En disant à nos auditeurs qu'on se retrouve lundi prochain pour débriefer le match de Lille, en espérant que je serai encore là. Je ne me serais pas ouvert les veines.
Non, non.
dans mon virage.
Non, non.
Voilà, ce qui serait bon signe si ça ne se passe pas. Voilà.
Notre esprit sera ouvert. Alors, il y a de fortes chances, je l'espère, que nous retrouverons un compagnon de route et un élément essentiel de notre formation. Thierry sera peut-être présent pour débriefer la rencontre d'OM Lille.
Voilà, et on souhaite à Thierry, s'il ne veut pas être traité de chat noir, de qu'on gagne contre Lille.
Et parce que tu lis dans mes pensées.
Et voilà. Et on le salue, on lui fait des gros
Allez,
bisous.
Merci à toutes et à tous. Une bonne semaine.
Et à bientôt.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.